France Inter. Nicolas Demorand.
Et nous sommes le vendredi 31 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, des policiers au tribunal pour violence dans des manifestations de gilets jaunes. Le procureur de Paris parle ce matin dans la presse. 174 enquêtes sur les forces de l'ordre, 8 passibles de la cour d'assises. Injuste, dénoncent les syndicats. Le détail, Hélène, après les autres titres.
Trop de clandestins venus du Mexique pour Donald Trump et la sanction encore à coup de droits de douane plus 5%. Le Mexique s'affole et appelle au dialogue. Le Brésil, les manifestations monstres d'étudiants contre le gouvernement d'extrême droite, ça continue. La journée mondiale sans tabac, on verra que les jeunes restent des cibles faciles et fragiles. Le tennis Roland-Garros, rien ne va plus chez les Françaises. Et puis Laurent Houtan, la plus âgée de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, fête son anniversaire. Nénette va bien, merci. On prend des nouvelles à la fin du journal.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, deux des meilleurs spécialistes de Léonard de Vinci. Mathieu Deldic, Vincent Delieuvin, ils sont les commissaires de l'exposition La Joconde nue. Elle ouvre ses portes demain au musée Condé à Chantilly. Ils seront au micro d'Ali Badou. 8h20, smartphone en main. Sommes-nous tous devenus des poissons rouges? On posera cette drôle de question à Bruno Patineau, le directeur éditorial d'Arte, qui publie un livre sur le marché de l'attention. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Depuis 6 mois, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la polémique est récurrente. Que fait-on des violences policières? Les pouvoirs publics accusés bien souvent de vouloir les couvrir. Eh bien, le nouveau patron du parquet de Paris, Rémy Heitz, tente les points sur les i ce matin. Interview au journal Le Parisien. Il n'y a aucune volonté de ma part d'éluder ou de minimiser ces violences policières. Et le procureur de Paris promet, oui, des policiers seront jugés. Précision avec Emmanuel Leclerc.
Rémy Heitz ne dit pas pour quel dossier des policiers seront renvoyés en correctionnel pour un usage illégitime de la force publique. Mais ces procès d'agents auront donc lieu un an quasiment après les faits qui leur sont reprochés. Rémy Heitz explique que c'est l'examen difficile et minutieux par la police des polices qui prend du temps. Il y a très rarement un flagrant délit qui permet de renvoyer parfois en 48 heures un prévenu devant un tribunal, comme c'est le cas avec des manifestants casseurs. Mais pour le patron du parquet de Paris, la justice passera, même s'il y aura par ailleurs un certain nombre de classements sans suite, par manque de preuves ou parce que finalement l'usage de la force est considéré comme légal. Rémy Heitz annonce enfin que 8 dossiers les plus sensibles et les plus complexes sont désormais confiés à des juges d'instruction indépendants. Il n'y en avait qu'un seul jusque-là, le dossier de Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil place de la Bastille, avec de possibles renvois, cette fois devant une cour d'assises, à l'issue des investigations.
Ce sont encore ceux qui trinquent sur le terrain qui payent. Les syndicats, eux, dénoncent. Pour Grégory Joron, secrétaire national CRS pour Unité SGP Police FO, c'est trop facile de jeter en pâture les forces de l'ordre quand la hiérarchie, elle, reste au chaud.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la justice prend une tournure politique étant donné la pression des gilets jaunes, sociétales et tout ce qu'il y a eu autour. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que quand on se trompe de dispositif, quand mes collègues sont envoyés sans être formés ni équipés de bon matériel et que de fait, ils font avec ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont et comme ils peuvent, là, personne ne se pose la question après de savoir qui va être le lampiste de l'affaire, entre guillemets, et se retrouver devant le tribunal correctionnel entre un délinquant de la route et un agresseur sexuel. On parle du 1er décembre, par exemple, avec le Burger King. Est-ce qu'on sait ce qu'a fait cette compagnie de CRS dans le Burger King les 15 heures qui ont précédé cette affaire du Burger King? Je vous rappelle que le préfet de police n'a pas été entendu. On lui a donné un poste de conseiller d'État aujourd'hui, alors que mes collègues, eux, se retrouvent dans le tribunal.
Grégory Joron, d'SGPFO, le procureur de Paris, a aussi fait le bilan côté manifestants à la veille d'un nouveau samedi en jaune. Et ça donne plus de 2000 gardes à vue, près de la moitié avec des classements sans suite. 1 millier de personnes déférées depuis 6 mois et plus de 500 comparutions immédiates. Lui, il est toujours dans les locaux de la sous-direction antiterroriste près de Paris, fin de sa garde à vue d'ici midi. L'homme soupçonné d'avoir fait exploser le colis piégé à Lyon la semaine dernière, qui a fait 13 blessés, est donc passé aux aveux. Il a aussi reconnu hier devant les enquêteurs avoir fait allégeance au groupe État islamique. Ses parents et son frère ont quant à eux été relâchés.
Il est 7h05, Hélène. Les fumeurs vont se cacher aujourd'hui. Journée mondiale sans tabac.
75 000 morts en France en 2015. Plus d'1 décès sur 8. Cancer ou maladie cardiovasculaire. Le tabac tue. doit-il encore le dire ? Oui, surtout quand on entend ces adolescents que Fabrice Hawkins a rencontrés dans les rues de Saint-Étienne. Reportage.
Ils ont entre 14 et 17 ans. Ces jeunes entendent depuis toujours que fumer tue, mais ça ne freine pas Lauriane, Eva et Jordan.
Je sais pas, ça me déstresse.
Par exemple, là, c'est la première cigarette que je fume, ça me fait du bien.
Quand j'étais souvent énervée, ça m'aidait vraiment à me calmer, quoi.
Des vertus soi-disant apaisantes, fumer, ça permet aussi de se faire accepter par le groupe, d'après Amélie.
À notre âge, on veut tous faire se donner un style, faut le dire. On fume, on sait même pas pourquoi, on est en terrasse, on fume une clope, puis après deux, puis après trois, au final. Je sais que j'ai arrêté de m'acheter des paquets parce que tout mon argent de poche, il passait là-dedans.
Juste à côté, sa copine Isiane, elle, compte ses sous tous les mois pour pouvoir s'acheter ses cigarettes.
Niveau argent, je dois acheter un paquet quand même tous les 2-3 jours, donc ça fait quand même presque 10 euros tous les 2-3 jours. Donc ça fait cher au bout d'un moment tous les mois.
Ça fait cher, surtout que le prix des cigarettes ne cesse d'augmenter. Laurie a trouvé l'astuce, acheter les cigarettes 30 centimes l'unité dans le quartier Beaubrun, et elle ne compte pas s'arrêter.
Parce que si je découvre une maladie un jour, mais si je suis pas motivée, je pourrais jamais arrêter.
La maladie et le cancer, c'est la seule chose qui effraie ces ados, mais ça ne les empêche pas de continuer.
Fabrice Hawkins de France Bleu Saint-Étienne-Loire, à propos de cette journée mondiale sans tabac. Sachez que la mairie de Paris va, d'ici une semaine, interdire la cigarette, elle, dans 52 parcs de la capitale. Ça fera 38 euros pour ceux qui oublient. À l'étranger, ça devrait plaire à Donald Trump. L'Iran est dans la ligne de mire, cette fois des États arabes. Riyad a réussi hier à convaincre ses voisins du Golfe, réunis en sommet à la Mecque. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a appelé ses alliés à faire face aux actions dites criminelles de l'Iran. Les capacités nucléaires du pays, une nouvelle fois, montrées du doigt. En parlant de Donald Trump, décidément, les droits de douane, c'est son arme favorite en ce moment. Après la Chine, le président américain vise le Mexique. Plus 5% sur tous les biens venus du Mexique à partir du 10 juin, tant que les immigrés clandestins, dit-il, affluent aux États-Unis. Le Mexique se dit très inquiet, évoque des conséquences désastreuses et appelle Washington au dialogue. Tous les détails dans le journal de 8h tout à l'heure. Les États-Unis et le bond en arrière. Je n'aurais jamais cru qu'on en reviendrait là. Défendre le droit des femmes à choisir ce qu'elles font de leur corps. C'est une femme de 70 ans qui parle. Plus d'un millier de personnes dans le défilé hier à Saint-Louis dans le Missouri pour défendre la dernière clinique qui pratique encore l'IVG. Plus pour longtemps, le Missouri va d'ici demain devenir le premier État américain à ne plus pratiquer d'avortement du tout. Il n'y a pas que le Missouri, d'autres États vont suivre et c'est rare, mais les géants Netflix, Warner, Disney ou encore Universal ont décidé de prendre position sur le sujet. Ils menacent de ne plus tourner de films ou de séries télé dans ces États où l'IVG sera interdit ou fortement diminué.
Il est 7h07, deux semaines après des défilés gigantesques. Hélène, les étudiants brésiliens ont à nouveau manifesté hier.
Contre les restrictions budgétaires dans l'éducation, contre le gouvernement d'extrême droite du président Bolsonaro, des milliers de jeunes et d'enseignants ont repris la rue un peu partout dans le pays. Plusieurs milliers hier à Sao Paulo, par exemple, ou comme ici, à Rio. Reportage Anne Vigna pour France Inter.
Toutes les grandes villes du Brésil ont connu à nouveau hier des manifestations monstres contre le président Bolsonaro qui veut réduire les budgets de l'enseignement supérieur. Camilla est venue manifester à Rio car la baisse du budget de son université est bien trop importante.
Sur notre pancarte, on a écrit « Liberté, égalité, université » en référence à la Révolution française. Car notre gouvernement est en train d'amputer le budget de l'éducation. Rien que dans l'Université fédérale de Rio, on a une amputation de plus de 40% du budget. Et cela a un énorme impact sur la vie des employés, des étudiants et des professeurs de l'université.
Des professeurs qui sont aux côtés des étudiants, y compris ceux du secondaire comme Rita.
Je suis professeur d'histoire au lycée et mes élèves sont les étudiants de demain. Je vois bien qu'ils n'auront jamais les moyens de payer une université privée. Certains doivent déjà abandonner le lycée pour aller travailler, alors ceux qui continuent, ils cherchent une vie meilleure et seule l'éducation peut leur permettre ça.
Jair Bolsonaro a ignoré les manifestations hier soir alors qu'il avait traité les étudiants d'idiots lors de leur première mobilisation. Le silence plutôt que l'insulte, mais qui traduit un profond malaise du gouvernement sur le sujet. Rio de Janeiro, Anvinia, France Inter.
L'actualité à l'étranger, encore avec pour finir des nouvelles. Après l'accident sur le Danube à Budapest en Hongrie, le commandant du gros navire de croisière qui a percuté le bateau de tourisme a été arrêté. L'embarcation avait sombré en quelques secondes. Des touristes sud-coréens à bord, 7 morts et 21 toujours portés disparus. Et puis c'est tout le paradoxe Uber. Le leader mondial des VTC a perdu 1 milliard de dollars au premier trimestre, moins d'un mois après son entrée en bourse, mais en même temps affiche une activité en hausse de 20%. Uber tiré visiblement par ses des autres activités comme la livraison de repas par exemple.
C'est mieux chez les hommes pour une fois.
Ben oui, c'est vrai si on regarde du côté de Roland-Garros. Caroline Garcia éliminée hier dès le deuxième tour par Anna Blinkova, 117e mondiale, et hop, il n'y a plus aucune Française sur les courts Porte d'Auteuil. De quoi se poser quelques questions, Fabrice Abgral, sur l'état de notre tennis féminin.
Le tennis féminin français vit un véritable paradoxe. L'équipe de France jouera en novembre prochain la finale de la Fed Cup avec des joueuses aujourd'hui toutes éliminées à Roland-Garros. Que ce soit Caroline Garcia, Kristina Blanenovic, Alizé Cornet ou Pauline Parmentier, elles ont toutes disparu prématurément. Pas de Française au troisième tour, c'est du jamais vu à Roland-Garros depuis 1986. Il y avait pourtant 11 Françaises dans le tableau final cette année, dont 5 appartenant au top 100 mondial, mais aucune parmi les 20 meilleures joueuses du monde. Les 6 autres avaient été invitées par les organisateurs, puisqu'aucune Française n'est sortie du tournoi de qualification. Le constat d'échec est cuisant, mais il faut dire que la formation des joueuses a été négligée. La Fédération Française s'est trop longtemps appuyée sur Marie Pierce et les joueuses de la génération 79, emmenées notamment par Amélie Mauresmo. Marion Bartoli avait assuré un temps la relève, mais depuis plus rien. Il existe clairement un trou général qu'il va falloir combler, mais comment et dans combien de temps, ça, personne ne le sait.
Alors oui, le ciel est donc un peu plus bleu du côté des hommes. Certes, c'est fini pour Gilles Simon, Eliott Benchetrit, Grégoire Barrère ou Adrien Manarino. Mais Gaël Monfils continue, Lucas Pouille aussi, même s'il est en mauvaise posture, son match contre le Slovaque Klizan interrompu par la nuit. On suivra aussi aujourd'hui Nicolas Mahut ou encore le petit jeune Corentin Moutet. C'est mieux aussi d'être un homme quand on fait du foot. La preuve, les Françaises sont à une semaine de leur Coupe du Monde et elles ont dû laisser leur chambre au bleu de Didier Deschamps sur le domaine de Clairefontaine hier. C'est normal pour la coach Corinne Diacre, encore plus depuis que les garçons sont champions, dit-elle. Message terrible dénonce certains, comme la sociologue Marie-Cécile Nave. Ça veut dire que le foot des femmes, c'est un sous-foot, débat ouvert. Elle a eu 3 maris, 4 fils. Elle a été star de ciné dans un documentaire de Nicolas Philibert. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Nénette, la plus âgée des orang-outans de la ménagerie du Jardin des Plantes, fête son anniversaire. Arrivée en 72 après un long voyage depuis l'île de Bornéo en Asie du Sud-Est, Manon Clavry est allée voir comment allait Nénette.
Assise sur un bidon dans sa loge vitrée, Nénette attire tous les regards des visiteurs.
C'est une entité, c'est un emblème.
On la sent calme, apaisée. Ouais, elle est belle comme tout.
La doyenne des primates de la ménagerie semble avoir eu une enfance difficile à Bornéo. Elle a été séparée de sa mère très tôt, a perdu une phalange. Mais d'après la vétérinaire Haute Bourgeois, elle pourrait battre le record mondial de longévité des orang-outans.
L'espérance de vie des orang-outans, c'est à peu près 50 ans. Le plus vieil orang-outan recensé, je crois, dans le monde, a vécu jusqu'à 62 ans. Elle est plutôt en forme pour son âge. Bon, bien sûr, elle a des soucis d'arthrose, elle a des problèmes d'hypothyroïdie, donc elle prend du lévothyrox, la même spécialité qu'on prend pour les humains.
Tous les jours, Nénette feuillette des magazines et elle s'adonne aussi à la peinture, une de ses passions. Christelle Anneau, la chef soigneuse.
On lui donne vraiment une palette où elle peut choisir ses couleurs, donc elle choisit. Et puis il y a des jours où elle doit être très inspirée, donc elle peint aussi sur les vitres, elle peint sur les murs. Elle a bien compris qu'on voulait récupérer les dessins, donc elle prend bien soin de tourner sa feuille de papier et nous la repasser à travers la grille, donc elle les déchire pas. C'est assez rigolo.
Ça va ma mémé ? Oui, ça va ma fille ?
Une fête d'anniversaire sera organisée en son honneur le 16 juin. L'occasion aussi de sensibiliser le public à la conservation de son espèce en danger critique d'extinction.
Bon, Nénette prend du lévothyrox, mais
comme tout le monde,
elle peint et elle lit des magazines, c'est plutôt sympa comme retraite.
Merci Hélène Roussel.